Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des situations qui laissent sans voix, celle des chrétiens d'Orient en est une. Eux ne cessent de demander à nos églises la prière quand on voudrait en faire plus, mais on ne sait souvent comment. En France, un homme se tient à leur côté de manière privilégiée, sillonne les pays du Proche et du Moyen-Orient, allant à la rencontre de ses multiples églises, Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. Un homme de passage à Toulouse et auteur d'un récent ouvrage appelé tout simplement « Chrétiens d'Orient, résister sur notre terre ». Mgr Pascal Gollnisch, bonjour.
Bonjour.
Je le disais donc en introduction, vous êtes de passage à Toulouse et donc vous avez écrit ce livre aux éditions du Cherche Midi. Vous le dites en introduction, c'est un petit peu à la demande de vos proches collaborateurs pour faire en sorte que les chrétiens d'Orient soient mieux connus en France et pour sensibiliser l'opinion publique. C'est de fait l'intention, j'ai bien lu. Est-ce qu'il y en aurait d'autres ou est-ce que vous voudriez compléter ne serait-ce que sur ce point?
Vous avez très bien lu, c'est vrai que la question des chrétiens d'Orient a suscité une véritable émotion en France, et donc une curiosité, un besoin de connaître, et j'ai essayé de répondre à ce besoin, notamment par ce livre.
Alors allons-y, on va prendre le temps de faire connaissance avec ces chrétiens d'Orient, mais de fait, la sujet d'actualité aujourd'hui, quand on pense chrétiens d'Orient, on pense persécution. Vous le dites dans votre ouvrage, donc il y existe en fait une multitude de chrétiens d'Orient, on met sous ce label en fait bien des réalités. Néanmoins, on entend dire, nous, vu de France, que ces églises d'Orient seraient globalement victimes aujourd'hui de persécutions et que cette persécution serait historique. Alors, sans être trop caricatural, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette idée que l'on a ou des choses que l'on peut lire par-ci par-là dans les médias ?
Eh bien, si vous voulez, les chrétiens d'Orient habitent au Moyen-Orient, une région qui est toujours disputée. Hein, et on pourrait remonter jusqu'à Alexandre le Grand, 300 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est pas un problème qui date d'hier. Mais soyons clairs, depuis 13 siècles, ces chrétiens vivent dans des pays à majorité musulmane et ce n'est pas toujours facile pour eux. Est-ce pour autant une longue suite de persécutions? Si c'était cela, depuis 13 siècles, il n'y aurait plus de chrétiens d'Orient. Donc, il faut distinguer trois réalités. D'une part, ce qu'on appelle réellement des persécutions. Ça arrive, par exemple, le Daesh aujourd'hui, ou Al-Nusra aujourd'hui, ou parfois les frères musulmans en Égypte. Là, ce sont des persécutions, c'est-à-dire des actions systématiques, globales, pour sortir les chrétiens du Moyen-Orient. Voilà, ça, c'est ça la persécution. Vous dites que vous êtes chrétien, on vous tue, on vous met en prison. Alors, il y a des vagues, mais c'est pas la situation permanente. Encore une fois, si c'était le cas, il y aurait plus du tout de chrétiens en Orient. Il y a une deuxième réalité qui sont des violences ponctuelles. Par exemple, il y a quelques années, l'attentat à la cathédrale syriaque de Bagdad ou celui de la cathédrale orthodoxe d'Alexandrie, ou des enlèvements, ou des kidnappings. Voilà, ça, ce sont des violences ponctuelles. Pas la même chose qu'une persécution globale et systématique. Troisièmement, il y a des discriminations. Et dans tous ces pays, moi je n'aime pas tourner autour des questions, en dehors du Liban, il y a des discriminations. Voilà, dont font l'objet des minorités, et en particulier la minorité chrétienne. Alors qu'est-ce que c'est qu'une discrimination? C'est pas simplement des choses impolies, hein, ce sont parfois des choses très dures. Par exemple, tout le monde sait qu'un musulman qui veut devenir chrétien mettrait sa vie, sa sécurité en danger. Une femme musulmane qui ne peut pas épouser un chrétien, donc il faut que les chrétiens deviennent musulmans s'il a vraiment envie d'épouser l'élu de son cœur. Ce sont aussi des discriminations juridique, judiciaire, constitutionnelle, administrative, économique, et un sentiment global que ces chrétiens ne sont pas des citoyens comme les autres, c'est l'héritage d'une situation ancienne, sous les califes, sous l'Empire ottoman, donc ils doivent payer un impôt lourd, qui parfois a fait que les chrétiens ont été en difficulté, et puis voilà, ce ne sont pas des citoyens à part entière. Donc ces discriminations sont très lourdes, elles sont dans tous les pays, à des degrés divers, et sauf au Liban. Et c'est ce poids de discrimination qui, au fil des ans, finit par faire partir les chrétiens, avec aussi les persécutions quand il y en a, et les violences ponctuelles. Mais il ne faut pas oublier les discriminations, parce que sur ces situations, il y a des moyens d'agir. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose de lutter contre le Daesh, aujourd'hui, que de lutter contre une disposition législative.
Alors, vous dites donc que ça fait 13 siècles que les chrétiens sont parfois victimes de persécutions. Est-ce que, de fait, cette persécution ou ces difficultés, ces discriminations sont historiques? Enfin, alors c'est toujours difficile de... Enfin, il ne s'agit pas de voir si c'est pire qu'avant, mais malgré tout, on entend le pape François régulièrement dire que la situation des chrétiens dans le monde n'a jamais été... on n'a jamais été autant persécutés que dans les premiers siècles de l'Église. Est-ce que c'est le cas aussi pour tous ces chrétiens d'Orient?
Alors, dans le présent, vous voulez dire?
Dans le présent.
Alors, dans le présent, il faut distinguer selon les pays. Donc, dans un cadre général de discrimination, parfois lourde, il y a 2 millions de chrétiens en Arabie Saoudite qui n'ont pas un seul lieu de culte, par exemple. Alors que la liberté de culte, ça fait partie de la Charte des Nations Unies. Donc, des discriminations, situations variables, il y a des pays où il y a évidemment des persécutions. En Irak...
Alors ça, vous l'avez précisé, mais au regard de l'histoire, est-ce que ces persécutions sont de fait historiques ou est-ce qu'il y a eu d'autres grandes périodes comme ça de
ça n'a pas été continu. Il y a eu parfois des califes ou des princes qui tout d'un coup persécutaient les chrétiens, mais ça n'a pas du tout été de manière continue. Ce qui était continu, encore une fois, c'est les discriminations. À persécution, ça a été parfois des choses sur une période, dans un pays donné. Voilà, tout d'un coup, un prince local veut extirper les chrétiens. Donc ce sont des choses ponctuelles qu'on retrouve tout au long de l'histoire. On en retrouve les traces dans l'histoire, bien sûr, jusqu'à nos jours. Mais c'est, encore une fois, ce n'était pas une persécution qui aurait été continue, homogène, depuis 13 siècles.
Alors, vous allez sur le terrain, à la différence de beaucoup, donc c'est évidemment ce qui donne aussi beaucoup de crédibilité à vos propos, et vous citez en préambule l'histoire d'une vieille femme. Alors, si vous l'avez citée, c'est que ça a dû vous marquer lors d'un de vos voyages, si je ne me trompe pas, en Irak, dans un camp de réfugiés au Kurdistan. Est-ce que vous pouvez nous re-raconter cette histoire que vous citez?
Oui, tout à fait. Donc, je pense que les auditeurs savent bien qu'il y a un peu plus de 2 ans, le Daesh a pris la ville de Mossoul, puis a pris l'ensemble de la plaine de Nini, les environs de Mossoul, et donc les chrétiens ont été chassés dans des conditions extrêmement dures, et donc nous sommes rendus avec le cardinal Barbarin, l'archevêque de Lyon, avec Mgr Lebrun, l'archevêque de Rouen, avec d'autres évêques, Mgr Stinger, l'évêque de Troyes, d'autres encore, à la rencontre de ces malheureux qui ont vu la mort de près, qui se sont retrouvés sur le trottoir, ayant tout perdu, ayant dû quitter leur maison, leur terre ancestrale, etc. Et vous savez, il faut prendre un peu de temps pour écouter les gens. Et donc, voilà, on va très vite, on a essayé de les mettre sous des tentes, dans des abris de fortune, où ils retrouvent un peu d'intimité familiale. Et là, on s'assoit avec eux, et on les écoute raconter leurs drames. Et voilà, et puis toujours à la fin, on prie avec eux. Et donc, ils sont très fiers de nous dire, on va prier notre Père en araméen. Voilà, c'était la langue du Christ qu'ils ont gardée. Et donc, terminant le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je vois cette femme âgée qui me dit, il faudra que Dieu nous donne un jour la force de pardonner à ceux qui nous ont fait tant de mal. Et vous voyez, chez ces chrétiens qui ont vécu une tragédie, j'ai entendu des cris de souffrance, des cris d'injustice, des cris d'incompréhension. Ils étaient au service de l'ensemble de la population, des cris d'angoisse, ils savent pas quel est leur avenir. Je n'ai jamais entendu de leur part de cris de cris de vengeance. Voilà, c'est très impressionnant quand on les écoute. Alors, ce sont des gens, vous savez, de paix, et de paix parce qu'ils ont une éducation chrétienne très forte. Très forte, voilà. Et ça, c'est très impressionnant. Jamais des cris de violence ou de vengeance.
Vous le dites d'ailleurs à plusieurs reprises dans votre ouvrage et on aura l'occasion d'y revenir. Alors c'est vrai que quand on pense à ces situations soit de persécution, soit de discrimination, on pense aussi à l'exode. On entend souvent dire qu'il y a une exode importante. Alors évidemment, ça dépend des pays. Une fois de plus, on embrasse de manière très très large dans cette interview. Mais de fait, est-ce que les chrétiens d'Orient, on va dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet exode? Alors peut-être en distinguant les différentes...
Tout à fait, bien sûr, c'est une réalité massive. Cependant, il y en a qui restent. Je veux dire, il y a 10 millions de chrétiens en Égypte, il y a encore 400 000 chrétiens sans doute en Irak, etc. Il y en a au Liban, il y en a en Syrie, etc. Donc, je voudrais aussi qu'on n'oublie pas qu'il y en a qui restent, ils ne partent pas tous. Mais,
c'est d'ailleurs le sous-titre de votre ouvrage, Résister sur notre terre.
Voilà, et leur maintien sur leur terre, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, c'était vraiment aussi une question qui nous est posée à nous. Est-ce qu'on est prêt à les aider à avoir les moyens de rester sur leur terre? Voilà. Mais donc, il y en a qui partent, il y en a qui partent depuis très longtemps, parce que ces discriminations font partir les familles. Parce que vous prenez un homme de 30, 40 ans, dit « Bon, moi je veux bien rester, je suis habitué pour mon enfance, mais j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils vivent ça, et donc on va partir. » Il faut dire aussi qu'il y a des difficultés économiques dans ces pays, donc il y a aussi beaucoup de gens qui veulent partir, il n'y a pas que les chrétiens, mais spécialement les chrétiens, puisqu'ils subissent ces discriminations. Et évidemment, les phases de persécution accentuent ce désir de départ. Donc c'est une vraie difficulté, parce que ces chrétiens orientaux, s'ils vont en Europe, en Australie, au Canada, en Amérique, est-ce qu'ils vont pouvoir garder un sens de leurs racines? Est-ce qu'ils vont pouvoir garder leur culture? Est-ce qu'ils vont pouvoir garder leur spiritualité? Voilà. Et donc, ou alors, ça va être une disparition de ces églises, qui sont les premières églises, hein, qui sont nées de la Pentecôte. Ce ne sont pas des missionnaires européens qui les ont formées. Donc voilà, c'est vraiment la question de cette diaspora qui, peut-être pour les chrétiens, d'un point de vue de conditions de vie, serait peut-être meilleur pour eux qu'ils aillent ailleurs, même si c'est quand même des citoyens irakiens, des citoyens syriens, etc. Donc, c'est pas évident de quitter son pays. Pour l'Église, ce serait ennuyeux, bien sûr, s'il y avait plus ces chrétiens au Moyen-Orient, puisque c'est là que nous sommes nés. Alors, quand même, d'être chassé de là où nous sommes nés, ce serait quand même dur. Mais ce serait surtout difficile pour les pays de départ, parce que ces chrétiens dans ces pays-là représentent aussi une force de médiation. On sait bien qu'au Liban, s'il n'y avait plus de chrétiens au Liban, il n'y aurait plus de Liban, parce qu'entre les sunnites, les chiites, les druzes, la communication est difficile et passe par les chrétiens. C'est-à-dire, les chrétiens, ils ont un rôle social important, ils tiennent des hôpitaux, ils tiennent des écoles, des collèges, des lycées. Donc, pour ces pays-là, ce serait une lourde perte. De surcroît, toutes les minorités suivraient les chrétiens et partiraient. Et par conséquent, il ne resterait plus que des groupes majoritaires identitaires qui nourrirait une sorte de violence accrue dans un nationalisme au mauvais sens du terme, et par conséquent, ce serait la guerre d'après. C'est-à-dire que, comme après 1918, si on croit qu'on peut mettre les gens entre eux pour construire la paix, on ne fait que préparer la guerre d'après. Donc, faut bien mesurer l'enjeu du maintien de ces chrétiens. C'est pas simplement anecdotique ou culturel, hein. C'est l'équilibre même de l'ensemble de la Méditerranée qui est du bassin méditerranéen qui est en jeu.
Vous mentionnez un moment la politique de la France à l'égard des chrétiens d'Orient, et plus globalement, on a envie de vous demander, est-ce que vous, qui avez, on va dire, un pied en Occident, du coup, et un pied au Proche et au Moyen-Orient, vous avez l'impression qu'on est suffisamment sensible à la situation de ces chrétiens, ou est-ce que pour vous, le compte n'y est pas ?
Eh bien écoutez, d'abord je pense que la situation des chrétiens d'Orient, donc en particulier depuis l'attentat d'un cathédrale syriaque de Bagdad, mais depuis des siècles, est tout de même assez présente dans le cœur des Français. Et que les actualités récentes ont réveillé un peu ce sentiment autour des chrétiens d'Orient. Donc je sens dans la population française, et pas que chez les catholiques, mais chez eux bien sûr, le fait de vouloir se sentir proche de ces chrétiens d'Orient discriminés et persécutés. Je pense que, après ça, les politiques internationales sont complexes, bien sûr, hein. Vous savez qu'il y a des enjeux internationaux, économiques, stratégiques, voilà. Donc tout ça est mêlé. Moi, je crois que certains s'imaginent qu'ils vont régler le problème en disant « les chrétiens ont qu'à quitter l'Orient ». Voilà. Et notamment dans certains milieux anglo-saxons, il y a cette idée. C'est un peu comme si, durant l'occupation de la dernière guerre mondiale, on avait dit « Ah oui, les Juifs ont des problèmes, et ben on va leur permettre de quitter l'Europe. Comme ça, le problème va disparaître. » Ben non, bien sûr. Oui, il faut les aider s'ils sont persécutés, mais c'est pas comme ça qu'on va régler le problème en profondeur. Voilà. Et donc, de fait, nous avons le sentiment que certains penseurs, que certains états-majors, que certaines diplomaties ne mesurent pas bien les enjeux dans cette région, et surtout le facteur religieux. Et qu'est-ce que vous voulez, en Syrie, on est dans un conflit, grosso modo, entre sunnites et chiites, qui n'était pas le cas en Égypte, qui n'était pas le cas en Tunisie. Je ne sais pas si nous avons bien mesuré cette différence, parce que nous sommes parfois formés à mésestimer l'importance du fait religieux. Et par conséquent, il y a des erreurs d'analyse. Tout le monde sait que les diplomates occidentaux pensaient que le président Assad a été tombé en quelques semaines, que c'était une question de jours, et que donc on réclamait son départ, mais parce que de toute façon il allait partir. Et c'est il y a plus de 5 ans. Donc il y a bien des erreurs d'analyse qu'il faut reconnaître et qui sont parfois aussi des fautes importantes, fautes morales, comme par exemple l'invasion américaine en Irak et qui par conséquent ont contribué à des situations aujourd'hui catastrophiques.
Alors, on y reviendra sur cette politique de la France un peu plus tard dans cette émission. Avant qu'on fasse une première pause musicale, je voulais faire écho probablement à ce que vous avez dit précédemment. Vous dites à un moment quasiment à la fin de votre préambule qu'il serait dramatique de croire que notre sort n'est pas lié à celui du Moyen-Orient. Alors, probablement que vous entendiez par là ce que vous avez dit juste avant, c'est-à-dire que si les chrétiens disparaissent de toutes ces terres, ça aura des conséquences graves, mais est-ce que c'était la seule chose que vous vouliez exprimer par cette incise ?
Vous savez, quand je voyage, je suis quand même très frappé par ce que représente l'unité de ce que j'appellerais la culture méditerranéenne. Vous allez en Provence, vous allez en Grèce, vous allez en Italie, vous allez en Espagne, mais vous allez au Liban, mais vous allez en Algérie, mais vous allez dans certains endroits de la Turquie aujourd'hui, vous voyez les mêmes paysages. Ce sont des oliviers, ce sont des vignes, ce sont des collines qui donnent dans la mer. Il y a quand même une unité culturelle extrêmement profonde. Et là-dedans, nous sommes des acteurs importants, nous sommes la seule puissance permanente au Conseil de sécurité à avoir ainsi un débouché sur la Méditerranée. Notre unité méditerranéenne est très importante, elle a été un peu estompée par ce qu'on appelle le couple franco-allemand et l'Union européenne, qui sont très importants aussi. Mais du coup, on a perdu de vue que nous avions eu un rôle extrêmement important dans cette culture méditerranéenne. Et vous voyez, on parlait de l'islam, que voulez-vous ? On ne pourra pas imaginer que si la preuve était faite que les chrétiens ne peuvent pas vivre avec les musulmans dans le sud et l'est de la Méditerranée, on ne peut pas imaginer qu'il y aura paisiblement un islam dans nos pays au nord de la Méditerranée. Il y a quand même une cohérence, il y a une unité. Et par conséquent, nous ne pouvons pas ne pas nous soucier de ce qui se passe dans ces pays-là, d'autant que nous sommes visés. On sait très bien que le Daesh, quand il a décapité 21 Égyptiens sur la plage face à l'Europe, que le Daesh appelait le royaume de la croix, et il les a égorgés, décapités, eh bien ça se voulait être un message, une menace vers ce qu'ils appellent le royaume de la croix, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire nous. Donc on est bien visé. Et ça, c'était pas parce qu'on intervenait contre le Daesh, c'était dès le départ une volonté du Daesh. Donc vous voyez, nous sommes liés à ce qui s'y passe.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Chrétien d'Orient, résister sur notre terre aux éditions Cherche Midi. On fait une première pause musicale et puis on vous retrouve tout de suite. Voilà cette émission ce matin donc sur les chrétiens d'Orient avec Mgr Pascal Golnisch, qui est donc le directeur général de l'œuvre d'Orient, auteur de Passage à Toulouse et auteur d'un ouvrage intitulé « Chrétiens d'Orient, résister sur notre terre » aux éditions Cherche Midi. Alors après un bref panorama de cette situation, de la situation actuelle des chrétiens d'Orient, une fois de plus quand on dit chrétiens d'Orient, en fait on embrasse très très large, je voudrais prendre le temps avec vous donc que vous nous parliez de ces chrétiens que vous connaissez et que vous avez rencontrés, auxquels donc vous faites une large place, je veux dire par là que vous décrivez ces églises, une multitude d'églises qui sont souvent très méconnues ici. Il faut commencer par dire l'ancienneté de leur présence. Vous dites que tout simplement c'est par là, c'est là-bas que les chrétiens ont commencé. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ces premières implantations, de ces premiers...
Bien sûr, parce qu'elles sont liées tout simplement au Christ lui-même. On a pensé rétablir l'ordre public en condamnant à mort Jésus à le crucifier. Et puis voilà que ses disciples disent qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Allons bon, de nouveau des troubles à l'ordre public. Voilà. Et ces premiers disciples de Jésus vont se retrouver donc à Jérusalem, puis de là ils vont aller à Damas, les auditeurs regardent une carte, ils verront que c'est cohérent, de Damas ils vont aller à Babylone, dans l'Irak d'aujourd'hui, ils pourront aller à Antioche, dans l'extrême est de la Méditerranée, ou de l'autre côté ils vont aller à Alexandrie, ou ils vont aller dans la Libye d'aujourd'hui, notamment à Cyrène, on sait que la partie est de la Libye c'est la Cyrénaïque, voilà, etc., etc. Et donc ce sont des chrétiens qui sont nés de la Pentecôte. Voilà. Et le christianisme, c'est une religion asiatique. C'est une religion orientale. Donc l'étonnement, c'est pas de voir qu'il y a des chrétiens d'Orient, mais de voir qu'il y a des chrétiens d'Occident. C'est ça qui est curieux. C'est que cette religion orientale soit venue jusqu'à nous. Elle est venue jusqu'à nous parce que des orientaux nous l'ont amenée. Donc vous voyez, pourquoi est-ce que ce sont des églises si importantes? C'est donc l'Orient de ce qu'était autrefois l'Empire romain. Vous savez, il y avait un Empire romain d'Occident, un Empire romain d'Orient. Là, c'est ça quand on parle des chrétiens d'Orient. Mais parce que c'est eux qui nous ont apporté la foi. Et c'est eux qui ont conservé, dans une certaine pureté culturelle, les traditions mêmes du temps du Christ. Vous le savez bien, quand le christianisme est arrivé en Europe, il y a eu une tradition grecque, une tradition latine, une culture grecque, une culture latine, pour d'ailleurs un grand enrichissement. Mais il y a aussi d'abord la tradition sémitique que gardent ces chrétiens d'Orient. Et donc vous voyez, ce sont des chrétiens qui sont là depuis le début, et qui nous ont apporté l'évangile. À la différence, si vous voulez, des chrétiens d'Extrême-Orient ou d'Afrique ou d'Amérique qui ont été engendrés par des missionnaires européens, donc qui étaient de l'Église latine. Donc l'Église latine, elle engendre l'Église latine à son tour. Mais là, c'est eux qui nous ont donné l'Évangile. Deuxièmement, donc ce sont des chrétiens qui sont restés là, qui se sont disputés. Ça arrive entre chrétiens, et pas simplement d'ailleurs qu'en Orient, si vous avez bien observé, mais ils se sont disputés autour, alors je ne vais pas rentrer trop dans des détails théologiques, mais ce n'est pas des détails, troisième et quatrième concile œcuménique qui ont eu pour but d'amener la formule que le Christ est une personne à la fois divine et humaine, dont une personne est de nature.
Voilà. Concile d'Éphèse et concile de Chalcédoine.
Concile d'Éphèse en 431, concile de Chalcédoine en 451, donc c'est le 5e siècle. Et là, il va y avoir une coupure. Donc on va trouver, pour aller rapidement, des chrétiens qui ont refusé ces deux, l'un ou l'autre de ces conciles. On va donc trouver des chrétiens en Égypte, ce sont les Coptes, qui ont autorité sur des chrétiens d'Éthiopie, qui ne sont pas des chrétiens arabes, mais qui sont une église orientale. Ensuite, on trouve une église syriaque, dans la grande Syrie de l'époque, hein, Syrie, Palestine, Jordanie, on trouve l'Arménie, le premier royaume à devenir chrétien hein, au début du 4e siècle, et puis on trouve des Maronites, une église qui est née à l'ombre des monastères de mystiques dans la montagne entre le Liban et la Syrie, on va trouver des Grecs, c'est-à-dire ceux qui acceptent quand même la religion, sous l'expression de la foi soutenue par l'empereur grec, et puis il y a donc des chrétiens de la Perse d'autrefois, ceux qui sont en Irak et en Iran aujourd'hui. Et puis beaucoup plus tard, pour le coup, sous l'influence de missionnaires européens, il y aura ce qu'on appelle une église latine en Orient. Voilà à peu près, si j'en ai pas oublié, les chrétiens du Moyen-Orient. Et puis alors évidemment, il y a les chrétiens de Constantinople, ce qu'on appelle les Byzantins, qui vont eux aussi évangéliser du côté des nouveaux venus, que sont les Slaves en Russie, en Ukraine, d'aujourd'hui aussi en Roumanie, Bulgarie. Voilà. Donc voilà à peu près ces églises orientales qui vont donc connaître pour celles du Moyen-Orient la venue des musulmans, la venue des croisés, qui sera pas que facile pour les chrétiens d'Orient, parce que les croisés vont trouver là des chrétiens qui prient pas comme eux, qui obéissent pas au pape, donc ils vont regarder ça avec suspicion. Puis quand les chrétiens vont être chassés, il va y avoir en quelque sorte des représailles un peu sur les chrétiens supposés des complices des croisés, etc. Donc après ça, ils vont connaître des invasions mongoles, des invasions turques, qui vont être et ils vont être donc dans ces sociétés à majorité musulmane, je reviens pas là-dessus. Par conséquent, ce sont des chrétiens qui ont une longue histoire, une longue tradition culturelle, liturgique, des pères de l'Église, des écrits spirituels, dans une diversité de langues liturgiques. Ils parlent des langues particulières selon leurs églises. Et donc c'est une grande richesse. Et quand une partie de ces églises rejoint la communion avec Rome, c'est-à-dire deviennent catholiques, un catholique ça veut dire on est en communion avec le pape de Rome. Voilà. Alors nous latins, en principe, nous sommes en communion avec l'évêque de Rome, avec le pape. Voilà. Donc nous sommes catholiques. Les latins sont des catholiques. Mais il y a des catholiques qui ne sont pas que latins. Il y a tous dans ces églises orientales aussi d'autres catholiques. Et ils nous rappellent que la catholicité n'est pas identique à cette culture latine. Voilà. C'est ça qui est important également.
Alors peut-être pour mettre aussi, j'allais dire des visages, mais pour aider à visualiser, est-ce que vous, quand vous avez pris donc la direction de l'œuvre d'Orient, on imagine que vous étiez déjà bien calé sur le sujet, est-ce que vous avez découvert certaines églises ou est-ce que vous voudriez nous décrire l'une de ces églises qui, au cours de vos voyages, vous a particulièrement frappé ?
Alors votre question suppose quelques secondes de réflexion. Eh bien, je pense par exemple à l'église qu'on appelle les Chaldéens ou les Assyro-Chaldéens, qui était l'église des chrétiens de Perse autrefois, et qui ont refusé le concile d'Éphèse, qui l'empire de Perse était en guerre permanente avec l'empire de Byzance, donc ce n'est pas rien. Et ces chrétiens de Perse ont été d'extraordinaires évangélisateurs, donc non pas vers l'ouest, puisqu'il y avait la guerre, mais vers l'est, et donc vers la Chine et vers l'Inde. Et ils ont créé des églises orientales en Inde, qu'on appelle les Malabars et les Malankars. Ils sont allés jusqu'en Chine. Pendant 150 ans, ils ont maintenu des communautés chaldéennes en Chine, on a retrouvé des traces archéologiques, moitié syriaque, leur langue est moitié en mandarin, quelque chose comme cela. Donc c'était quelque chose de très impressionnant, de très émouvant, profondément missionnaire, qu'on retrouve en Iran. Aujourd'hui, il y a deux évêques chaldéens en Iran, c'est pas toujours simple. Et puis il y a ces évêques et ces communautés chaldéennes en Irak, avec leur patriarche qui habite Bagdad, qui est un homme qui connaît parfaitement la culture française, comme la plupart des évêques chaldéens, qui parle français, qui connaît la France, qui aime la France.
Il y a une grosse communauté chaldéenne aussi en Île-de-France, il faut le rappeler, c'est...
Alors, il y en a des Chaldéens, vous en trouvez aussi à Syrie, en Alep, il y a un évêque chaldéen. Il y en avait qui étaient en Turquie, qui étaient pris un peu en porte-à-faux par l'armée turque d'un côté et les Kurdes de l'autre, et qui ont décidé de venir en France, et qui sont installés à Sarcelles, qui forment une communauté remarquable à Sarcelles, d'un grand dynamisme. Ils ont construit deux églises, une à Sarcelles, une près de Sarcelles à Arnouville, et c'est une formidable communauté. Il y a une paroisse chaldéenne aussi à Paris, une autre à Lyon, une autre à Marseille. Il y a des groupes de chaldéens ici ou là. C'est une église que j'estime profondément. Mais les autres aussi, hein, je ne vais pas créer d'incident.
Bien sûr, on a compris que vous... Voilà. Il y a une phrase comme ça que j'ai soulignée qui dit peut-être aussi à quel point ces chrétiens peuvent nous dérouter, et c'est semble-t-il ce que certains patriarches chrétiens disent d'eux-mêmes: nous sommes arabes mais nous ne sommes pas musulmans, nous sommes orientaux mais nous ne sommes pas orthodoxes, nous sommes catholiques mais nous ne sommes pas latins. Est-ce que de fait ils ont l'impression que s'ils sont trop complexe pour bien des chrétiens d'Orient pour arriver à être saisis, ou qu'est-ce que vous...
Ah oui, ça, je crois quand même qu'ils sont conscients avec un certain humour de leur propre complexité, de la complexité et la richesse de leur histoire. Mais vous savez, si vous expliquez les nuances de l'Occident à un oriental, c'est pas toujours simple, hein. Expliquer à un oriental notre vie politique, nos nuances ecclésiales, nos ordres religieux, pourquoi, voilà, qu'est-ce qui différencie un franciscain d'un capucin, expliquer tout ça à un oriental, c'est pas toujours si simple, voilà. Donc tout le monde est un peu complexe, mais c'est vrai qu'ils ont le sentiment un peu à chaque fois d'être comme des minoritaires, donc effectivement ils se considèrent comme arabes pris au sens large, des gens de arabophones, de langue arabe, mais ils sont pas des musulmans, minorités. Ce sont des orientaux, mais pas des orthodoxes, puisqu'ils sont, ceux qui sont catholiques sont donc évidemment rattachés à Rome, donc minorités. Et ce sont des latins, ce sont des catholiques, mais pas des latins, donc en effet, encore minorités. Vous voyez, il y a un moment où d'être de la minorité, de la minorité, de la minorité, c'est pas simple, c'est pas facile, mais ce sont des gens de foi, ce sont des gens qui ont une foi profonde, vraiment, et ce qui irradie, et c'est pour ça que ce sont aussi des gens de paix, ce sont des gens profondément humanistes, ce sont des gens de culture, ce sont des gens cultivés, et donc vous voyez, ce sont des gens qui connaissent très bien la France, ce ne sont pas du tout des gens qui voudraient que la France les connaisse mieux, qui voudraient que leurs amis de France comprennent mieux ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont, et je crois que c'est tout de même un devoir que nous avons vis-à-vis d'eux, d'essayer de les connaître et puis de les porter dans la prière et par d'autres moyens.
Alors c'est justement le sens de votre venue, de l'écriture de cet ouvrage et puis de cette émission évidemment. Vous parlez de ces chrétiens d'Orient en essayant de donner quelques grands traits caractéristiques et vous dites à un moment qu'ils ont peut-être deux vertus pour nous. Le premier c'est de nous aider à nous décentrer d'un point de vue occidental et le deuxième c'est de nous souvenir qu'une société ne saurait pas être que rationalité. J'ai retenu ces deux items, est-ce que vous pouvez peut-être les développer ? Le premier, on peut avoir entrevu, mais le second ?
Oui, je crois que c'est important qu'il nous rappelle donc qu'être catholique ne s'identifie pas au fait d'être latin. J'ai pas la latinité honteuse, je suis très heureux d'être un prêtre latin. Mais en même temps, la rencontre de ces catholiques non latins m'aide à être vraiment catholique, c'est-à-dire ouvert à une certaine universalité de l'Église catholique. Voilà. Et je crois que, en ce sens-là, il nous rappelle, vous savez, les premiers écrivains dans l'Église, ceux qu'on appelle les pères de l'Église, qui ont écrit et qui ont posé les fondements de ce qu'est la foi chrétienne, il y en a qui étaient des Arabes, qui ont écrit en arabe. Évidemment, en grec, cela va de soi, en syriaque. Donc, vous voyez, tout notre patrimoine, il est là aussi. Ce ne sont pas que des latins ou des grecs, mais il y a aussi toute cette richesse, il y a des coptes, il y a des éthiopiens qui ont écrit. Donc oui, il nous donne vraiment, il nous ouvre notre regard, notre cœur, ou une véritable dimension catholique. Sans forcément vouloir renoncer, nous, à être latins. Voilà, il ne faut pas qu'on ait non plus de culpabilisation. Et puis, la seconde...
Il nous aide à nous souvenir que nous ne saurions être que rationalité.
Voilà, moi, c'est vrai que quand je vais là-bas, j'ai l'impression de voir des sociétés où les gens sont encore capables de se parler. Voilà, il n'y a pas tout de suite référence à un procès ou à un règlement ou à une loi. Alors évidemment, ça peut paraître un peu pagailleux pour un latin rationaliste, héritier du droit romain, etc. Mais on se parle, et on prend le temps de se parler, on prend le temps de s'écouter, et on prend le temps de se rencontrer. Et je crois qu'il y a là quelque chose que nous avons un peu perdu dans nos sociétés européennes. Et en effet, nous sommes très bien, nous sommes très administrés, nous sommes très réglementés, nous sommes très encadrés. Voilà, il y a des autorités un peu dans tous les domaines, mais au dépens quand même d'une certaine liberté, spontanéité de rencontre et d'accueil, de prendre le temps. Et je crois que ces sociétés orientales ont quelque chose à nous dire là-dessus, et les Église orientale ou quelque chose à nous dire.
Alors, vous faites mention, peut-être avant qu'on fasse une deuxième pause, dans votre ouvrage, d'un temps d'études que vous avez passé à Rome. Vous avez été envoyé lorsque vous étiez au séminaire. Et vous dites qu'à la faveur de ce voyage dans l'universalité de l'Église que représente Rome, vous avez commencé à connaître ces chrétiens d'Orient. Est-ce que vous diriez aussi à nos auditeurs qu'il ne faut pas qu'ils hésitent aussi à aller voir les chrétiens d'Orient qui sont ici en France ? Est-ce que ce n'est pas une autre manière que de répondre à leurs prières ?
Bien sûr, alors vous voyez, il y a quelques jours, nous avons fait un pèlerinage à Rome avec un certain nombre de donateurs de l'œuvre d'Orient, parce que nous fêtons nos 160 ans. 160 ans, c'est pas mal quand même pour une association. Et alors nous sommes dit, on va aller à Rome à la rencontre de ces paroisses ou de ces séminaires, de ces collèges, de ces instituts de recherche orientaux-catholiques. Et donc en restant à Rome, nous avons fait un peu le tour du monde oriental catholique, et c'était, je crois, très surprenant pour un certain nombre de nos amis français, et c'était d'une grande richesse. Ils se sont rendus compte, là aussi, que ces orientaux prenaient le temps de nous accueillir à Rome, nous expliquer ce que vivait leur église, et parfois nous qui étions un peu pressés pour aller d'un endroit à l'autre, mais voilà, donc... Et si on va en Orient, bien sûr, si on fait un pèlerinage en Terre Sainte, c'est le pèlerinage de sa vie, d'une certaine manière, pour aller, quand on a la chance de pouvoir le faire, la grâce de pouvoir le faire, pour aller là où le Christ a vécu, a marché, etc. C'est dommage de faire un pèlerinage en Terre Sainte sans aucune rencontre avec une communauté chrétienne orientale. Parfois, je vois des gens qui sont tout heureux, mais ils sont allés en Égypte, des chrétiens. Ils ont fait le voyage aussi, et l'un des voyages de leur vie. On a vu les pyramides, les sphinx, les temples, etc. Et je leur dis, ah bon, c'est formidable, oui. Et vous avez rencontré des chrétiens égyptiens. Ah ben non, on n'a pas pensé. Alors oui, essayons de nous ouvrir à ces rencontres un peu déstabilisantes, hein, c'est sûr, c'est pas tout à fait notre culture, mais c'est ça qui est riche, c'est ça qui est dynamique.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, on fait une deuxième pause et puis on vous retrouve tout de suite après, entre autres, pour parler de votre regard sur l'islam, fort de ses nombreux voyages et de votre connaissance de ces chrétiens d'Orient, un regard en tout cas dans cet ouvrage qui apparaît aujourd'hui assez libre, au journaliste que je suis. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Chrétiens d'Orient, résister sur notre terre, aux éditions Cherche Midi, Monseigneur Pascal Gollnisch. Cette émission donc ce matin sur les chrétiens d'Orient à partir d'un ouvrage donc de Monseigneur Pascal Gollnisch, je le rappelle donc directeur général de l'œuvre d'Orient et de passage à Toulouse, auteur donc d'un ouvrage intitulé Chrétiens d'Orient, résister sur notre terre aux éditions du Cherche Midi. Alors je le disais avant cette deuxième pause, parmi les choses qui m'ont frappé dans ce livre, c'est un dégagement que vous faites sur l'islam. Vous avez une parole, on va dire, peut-être plus libre que celle qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui, fort probablement de votre expérience de tous ces chrétiens d'Orient. Avant que je vous pose des questions peut-être plus précises, est-ce que cette liberté de parole sur cette question, vous y teniez? Et si oui, pourquoi?
Ah bah parce que j'aime bien être libre de ma parole, non pas pour le plaisir de jouir de ma liberté, mais parce que aussi c'est elle et elle seule qui peut servir les chrétiens d'Orient. Je n'ai comme but, comme mission d'ailleurs confiée par mon évêque, que de servir les chrétiens d'Orient.
Alors, plusieurs choses, c'est difficile de savoir par quoi commencer. Vous dites sur l'islam, vous laissez entendre en fait que vous avez quelque espoir qu'il puisse y avoir à l'intérieur de l'islam, si je vous ai bien lu ou bien compris, une certaine, comment dire, réforme, ou si c'est pas une réforme, peut-être un islam plus rationnel. Alors est-ce que j'ai bien lu entre les lignes ou pas?
Bien sûr que j'ai cet espoir, et c'est pas simplement moi qui... Alors d'abord, je suis pas un islamologue, si vous voulez. Je sais qu'à Toulouse, il y a des islamologues universitaires, mais moi j'essaie d'écouter les chrétiens d'Orient. C'est les chrétiens d'Orient même qui le disent. Hein. Et ces chrétiens d'Orient, ils vivent dans des sociétés où il y a des musulmans, ils les connaissent, ce sont des voisins, ce sont des gens avec lesquels ils ont grandi, ils ont été éduqués, etc. Donc ils connaissent bien ces musulmans. Et bien évidemment, il y a des points de contact entre les chrétiens et les musulmans. Et les chrétiens savent bien qu'il y a des musulmans qui veulent que leur pays avance, s'ouvre, se modernise, que la citoyenneté pour tous, par-delà les appartenances religieuses, puisse progresser, et que ces musulmans disent aux chrétiens, restez à nos côtés, parce que sans vous, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc, bien évidemment, il y a des musulmans qui sont ouverts à cela, et il y a des très belle chose sur le plan de la rencontre entre les chrétiens et des musulmans dans ces pays-là. Donc c'est pas du tout à nous de s'imaginer qu'il y aurait un camp chrétien homogène opposé à un camp musulman homogène. C'est pas du tout ça la réalité. Et je n'ai jamais rencontré un responsable chrétien, qui imagine que l'avenir des chrétiens passerait par une sorte d'opposition frontale aux musulmans. Jamais aucun. Voilà, c'est ça la réalité que pensent les chrétiens d'Orient. Alors, problème avec les musulmans, c'est aussi que, bien sûr, dans ce monde musulman, il y a beaucoup de choses. Et notamment dans le monde musulman sunnite, vous savez qu'il y a une des grandes familles des musulmans, ce sont les sunnites, il n'y a pas de structure, il n'y a plus de calife, et par conséquent, c'est très difficile de savoir avec qui parler. Dans le monde musulman, il n'y a pas un pape et des évêques, voilà. Donc c'est complexe, et on trouve aussi des musulmans qui veulent chasser les chrétiens, on trouve aussi des musulmans qui veulent rétablir l'islam du 7e siècle, et qui veulent avoir, tout le monde le sait, des comportements de violence, soit ouverte, soit dissimulée à travers des attentats. Donc il y a tout cela. Mais vous voyez, moi, ce que j'entends de nos amis chrétiens d'Orient, c'est qu'il y a cette diversité. Et par conséquent, il y a bien à avoir une rencontre avec ces musulmans. Et vous voyez, je suis quand même parfois inquiet quand je parle de rencontres entre des chrétiens et des musulmans, qui sont le fait des chrétiens d'Orient, encore une fois. Ça ne veut pas dire, parce que je rencontre un musulman, que je sens ma foi vaciller. Voilà. C'est parce que je rencontre un musulman que j'ai envie de devenir musulman. Et c'est parce que simplement nous nous rencontrons et nous devons essayer de nous connaître, nous de les connaître et eux de nous connaître. Voilà, ça veut pas. Vous voyez, ce qu'on appelle le dialogue est un mot finalement assez galvaudé qu'il faudrait essayer de renouveler. Je pense que le dialogue, c'est pas essayer d'être en marge vers le syncrétisme.
Alors, j'entends tout ce que vous dites, hein, mais je disais que vous posiez quelques questions crues, entre autres vous interrogez, alors des questions qu'on a l'habitude d'entendre, vous interrogez par exemple la tradition musulmane sur sa possibilité d'accepter un pouvoir qui soit non religieux. Alors on va dire avec les chrétiens d'Orient, on imagine que la question est encore plus prégnante. Mais...
Oui, bien sûr, parce que vous savez, c'est le christianisme qui est original. C'est le christianisme de penser que les responsables religieux ne sont pas ipso facto des responsables politiques. Ça, c'est quand même très original. Et à quoi elle remonte, cette originalité? Elle remonte dans le Christ qui, face à Pilate, refuse d'employer la force et accepte de se laisser conduire jusqu'à la croix, d'ailleurs au grand dam de ses disciples, en disant si c'est le Messie, ben, il devrait réagir, les légions d'anges devraient le soutenir. Et cette attitude du Christ face à un pouvoir, j'allais dire, de ce monde, ne rentre pas dans un conflit d'ordre armé, dans un conflit d'ordre politique. Bon, c'est ça qui est original, c'est le christianisme qui est original. C'est beaucoup plus normal de se dire l'envoyé de Dieu, il faut lui obéir, même sur le plan politique. Donc c'est nous qui avons une particularité. Et bien sûr, dans l'islam, on sait bien, c'est extrêmement difficile de distinguer le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Un laïc, ça existe dans le christianisme. C'est le christianisme qui a inventé la notion d'un laïc. Il y a des laïcs et puis il y a un clergé. Dans l'islam, il n'y a pas de clergé, mais il n'y a donc non plus de laïcs. Et c'est donc extrêmement difficile. C'est la tradition chrétienne qu'il y a la tradition d'avoir l'évêque et puis le prince, l'empereur et puis le pape. Cette dualité, même si évidemment, le prince, l'empereur, il est chrétien, mais enfin, il est quand même laïque, et ça a été, dans l'histoire de l'Église, source de beaucoup de tensions. Et ça, c'est une invention chrétienne. Dans l'islam, nous ne voyons pas cette réalité, donc c'est évidemment une difficulté, d'autant plus que l'islam est aujourd'hui confronté, de fait, à la rationalité, ce qui n'est jamais simple pour une religion révélée. Je ne suis pas sûr que les chrétiens aient trouvé totalement l'équilibre dans cette confrontation au monde de la rationalité ou du rationalisme, mais aussi ils sont confrontés à la postmodernité qui l'individualise. Autrement dit, ils sont confrontés à 1905 et 1968 ensemble, d'un seul coup. Donc l'islam, faut pas s'y tromper, le monde musulman se sent parfois menacé par cette modernité, cette postmodernité. Et par conséquent, l'Occident est perçu comme une menace. L'Occident, l'impression, on va dire, qu'il est matérialiste, qu'il est athée, enfin, tous les discours, plus ou moins vrais, plus ou moins faux, qui peuvent être tenus. Et par conséquent, il y a une inquiétude, une angoisse chez ces musulmans. Et la réaction de la violence extrême, c'est pas une relation de force. C'est plutôt une relation d'angoisse. Voilà. Et donc, parmi ce monde musulman extrêmement compliqué, extrêmement divers, il s'agit pas de faire de l'angélisme, il s'agit pas de faire du syncrétisme, c'est-à-dire une espèce de mélange islamo-chrétien. C'est pas ça du tout. C'est simplement mieux se connaître, mieux se comprendre, et pourquoi pas mieux se respecter, ne pas avoir peur les uns des autres, mais c'est aussi se poser avec une parole exigeante de part et d'autre les véritables questions et d'être capable de s'interpeller, comme l'on dit. Voilà, il y a actuellement des crimes qui sont faits au nom de l'islam. Bien sûr, nos amis musulmans qu'on peut connaître ne sont pas nécessairement et du tout souvent les auteurs de ces crimes. Il ne s'agit pas de les en faire des complices supposés. Mais ils doivent, et nous devons les aider, à nous apporter une explication. Que dit exactement l'islam ? Voilà. Et ça, il faut que ça puisse progresser, non pas dans une relation de peur ou de règlement de compte, mais dans une relation de compréhension et d'exigence mutuelle de la vérité, car aussi l'islam nous bouscule. Nous, chrétiens, un peu parfois endormis dans notre propre foi, dans notre propre spiritualité.
Alors, avant que l'émission touche à sa fin, il y a un autre sujet, on pourrait dire probablement bien d'autres choses sur ce sujet-là, mais c'est la position de la France quant au conflit syrien, et plus globalement, les positions occidentales. À vous lire, le compte n'y est pas. La position de la France sur le conflit syrien on sent qu'elle vous a... choqué ou qu'elle vous a déçu. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette situation en Syrie qu'on a bien du mal à comprendre ici parce qu'on a une vision un peu tronquée à vous lire.
Si vous voulez, c'est évidemment une situation très complexe qu'il faudrait plusieurs heures pour en parler et je ne suis pas forcément d'ailleurs celui qui connaît toutes les choses dans ce domaine, mais d'abord la Syrie est un pays souverain. Avec un chef d'État, président Assad, à qui on peut faire des reproches, mais qui est un chef d'État légitime, puisque la France l'a invité le 14 juillet pour faire défiler nos armées devant lui. Je pense qu'on n'aurait pas invité un chef d'État non légitime. Bon. De plus, la France est une puissance, pas coloniale, mais mandataire, ça revient un peu au même, sur la Syrie. Donc, généralement, on a un peu de réserve à intervenir. Voilà. Au terme de l'analyse qui a été faite sur la situation de Syrie après des premières manifestations contre le président Assad et une répression rude de ces manifestations, la France tout d'un coup exige le départ du chef de l'État syrien. Voilà. Eh ben ça, je pense que ça me choque en particulier parce que je pense que ça repose sur une erreur d'analyse qu'il faut reconnaître aujourd'hui. On a cru que le président Assad allait tomber dans les semaines qui suivaient. Et voici, on réclamait son départ, c'était prendre un peu d'agence sur l'agenda. Comme on avait été un peu gagné de vitesse en Tunisie et en Égypte, là, cette fois-ci, on allait prendre les devants. Voilà ce qu'on a pensé, voilà ce qu'on voulait m'expliquer. Nous demandons le départ d'Assad parce que dans quelques semaines, il va partir. Eh bien, on s'est trompé. On s'est trompé pourquoi ? Parce que nous n'avons pas analysé de manière adéquate la situation en Syrie. Notamment en n'ayant pas assez intégré que très vite, cette tension en Syrie allait devenir une tension, qu'on le veuille ou non, même si ce n'était pas le cas au départ, sunnite-chiite, qui serait donc instrumentalisée par le conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite, avec la Turquie qui joue un rôle parfois difficile dans cette question, qui est aussi l'ancienne puissance occupante, et que du coup ça devenait un enjeu international, et que entre les USA, l'Europe et les Russes, ça devait devenir une source de tension et que ça devient quelque chose d'inextricable qui dure depuis plus de 5 ans, qui fait des centaines de milliers de morts, des déplacés, des réfugiés, des maisons détruites, une économie ruinée, etc. Donc il y a bien eu une erreur d'analyse et voilà, il faut savoir le reconnaître et adapter aussi les choses. Donc moi je ne suis pas syrien. Donc il y a une guerre civile, je respecte aussi que les Syriens doivent se prendre en main parce qu'on ne leur donne pas beaucoup la parole quand on est dit, enfin c'est quand même assez étonnant et choquant aussi que les États-Unis et la Russie se remettent tous les deux autour de la table pour décider de l'avenir de la Syrie. Moi j'avais cru comprendre que ça c'était fini, que la guerre froide c'était terminée, que maintenant il y a quelque chose qui s'appelait le Conseil de sécurité qui pouvait éventuellement agir. Donc cette espèce d'entente entre deux superpuissances, c'est quand même un retour en arrière assez considérable. Donc tout ça est quand même assez... C'est choquant. Et sur le plan moral et sur le plan de l'analyse technique. Voilà. Alors après ça, je ne veux pas non plus accuser notamment la diplomatie française de tous les maux. Elle a été aussi impliquée dans la chasse contre le Daesh, contre Al-Qaïda, le combat aussi en Afrique du Nord. Donc voilà, la France est très loin d'être fautif sur tout. Mais là, je crois qu'il y a eu une erreur d'analyse.
Vous dites à un moment dans votre voix, j'appelle de mes voeux une reconstruction intelligente de l'Irak et de la Syrie fondée sur des solutions préexistantes et qui ont prouvé leur succès jusqu'ici. Qu'est-ce que vous entendez par là, du coup? Quelles solutions maintenant?
Alors d'abord, il y a différentes hypothèses. Il y en a auxquelles je ne crois pas. Par exemple, si on commence à toucher aux frontières internationales, alors là, on va rentrer dans quelque chose dont on ne se sortira pas. Bien sûr, c'est les Européens qui ont affiné le tracé des frontières, encore que ce soit plus compliqué que cela. Mais vous comprenez, les Européens, ils ont participé au tracé des frontières dans 80% des pays du monde, ou en Afrique, en Amérique latine, en Extrême-Orient, c'est les Européens qui ont dessiné les frontières. Donc sous prétexte que les Européens ont joué un rôle là-dessus, il faudrait revenir, je crois pas du tout, ce sont des frontières qui ont été stabilisées depuis un siècle, on va pas revenir comme ça dessus. Autre hypothèse auquel je ne crois pas, la partition, c'est-à-dire qu'on fait un sunnistan, un chiitistan, un alaouitistan, etc. Les chrétiens, je sais pas où on les met, mais si on fait ça, chaque groupe va se raidir sur son territoire et ce sera une source de tension et ça déclenchera une guerre dans les années qui suivront. Donc je crois que la solution, c'est d'abord d'envisager, à titre provisoire et transitoire, je le répète parce que on va oublier ce que j'ai dit, à titre provisoire et transitoire, une sorte de zone d'influence régionale qui pourrait permettre d'arrêter cette guerre en Syrie. Car la population est épuisée, la population n'en peut plus, il faut la secourir. Donc si on arrête la guerre sur des lignes de démarcation, c'est satisfaisant pour personne, j'en suis bien conscient, mais ça peut permettre de faire un peu acheminer des secours. Voilà. Deuxièmement, ça peut permettre aussi de rendre leur parole aux Syriens dans les différents lieux où ils se trouveront. Et petit à petit, de construire quelque chose vers une solution nationale. Et pas d'abord de poser la question de savoir si M. Assad doit partir ou pas, quand on sent que ce serait là la solution miraculeuse pour la Syrie, décidée par d'autres que ceux qui vivent actuellement en Syrie. Voilà, comme ça, je crois qu'il faut progresser. Et en acceptant, même si notre habitude laïciste en prend ombrage, qu'il faut aussi écouter les facteurs religieux qui ont une importance dans la construction de la vie sociale en Syrie. Voilà. Et puis donner un espoir, dire que nous croyons à un avenir pour la Syrie, que nous voulons que ces gens se donnent les moyens d'avancer sur un projet de société, sur un projet presque politique, sociale, culturelle dans leur pays, et surtout une avancée vers la meilleure reconnaissance de la citoyenneté pour tous. Alors vous allez me dire, mais ils rêvent complètement, etc. Non, je rêve pas complètement, parce que je pense que si les chrétiens le veulent, il y a aussi des musulmans qui le veulent, je le redis. Pas forcément tous les musulmans, mais des musulmans qui le veulent. Vous voyez, en Irak, par exemple, on est en train de faire reculer le Daesh de la plaine de Nive et de la ville de Mossoul. Enfin, j'ai de le dire, hein, ça fait plus de 2 ans qu'on attend cela. Et bien, vous savez, les musulmans, ils sont parfois les premières victimes de ces cruautés islamistes. Voilà. Et par conséquent, eux aussi, ils veulent que les choses puissent avancer et que cette pleine citoyenneté pour tous soit reconnue. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut leur imposer notre modèle. Ils ne vont pas forcément vivre une démocratie à la française, qui est d'ailleurs très française, ou à l'allemande, ou à comme les Britanniques. C'est-à-dire 3 modèles de démocratie très différentes. Il faut inventer des modèles qui conviennent au génie et à la culture de ces différents pays. Et la démocratie, ce n'est pas simplement d'avoir fait des élections, de tout pouvoir à la majorité. La démocratie, c'est aussi les droits de l'opposition, le droit des minorités, l'indépendance de la justice, la liberté d'expression, etc., etc. Donc vous voyez, il y a un chemin à faire et il ne faut pas désespérer de ce chemin. Ces pays ne sont pas condamnés à la dictature. On me disait déjà cela en Europe de l'Est, c'est la période communiste. Mais oui, c'est des pouvoirs forts, mais dans ces pays-là, c'est ce qu'il leur faut. Bon, bah quand même,
ce qu'on entend aujourd'hui encore souvent.
Personne donc n'avait prévu quand même cette chute des pouvoirs communistes et qu'il y a quand même des pays en Europe de l'Est, et il y a encore du chemin à faire, mais qui évoluent quand même vers des situations plus démocratiques, plus libres. Voilà. Bah, là aussi, il faut arrêter de dire que ces pays sont condamnés à je ne sais quelle dictature. Bien sûr, il faut sans doute un pouvoir d'autorité, un pouvoir fort, mais ils peuvent aussi faire des choix de société qui leur conviennent et il faut être à leur côté pour cela.
Voilà un livre, merci beaucoup Monseigneur Pascal Gollnisch, un livre passionnant en tout cas à lire, Chrétien d'Orient, résister sur notre terre, aux éditions Cherche Midi. Merci. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.